Alors bonsoir, bienvenue à cette rencontre avec Steven Erickson. Nous sommes ravis d'avoir ici ce soir. On va parler donc des deux volumes qui sont parus chez les éditions Léa du cycle de Malazan, le livre des martyrs. Donc le premier qui est Les Jardins de la Lune, et le deuxième Les Portes de la Maison des Morts, qui vient juste de sortir. On va parler en général, je pense, de la saga dans son ensemble et notamment de sa création. Ma première question pour vous, Steven, ça sera que vous nous disiez d'où vous vient votre vocation d'écriture, votre envie d'écrire, parce que je crois que c'est quelque chose qui date d'il y a longtemps. D'où vient le déclic de l'écriture?
You've been wanting to become a novelist for a long time. How did it all start?
I thought I was going to be a comic book artist because I started out as an illustrator. but then I found that this was in the days before you could use digital shortcuts to producing a comic. And I found it took far too long. So I simply shifted to the narrative rather than the drawing.
J'avais pour projet au départ de devenir spécialiste de bande dessinée, bien avant l'ère numérique. Et je me suis vite rendu compte que c'était trop long en fait de créer une œuvre de bande dessinée, donc je me suis tourné vers l'écriture.
Okay. Quelles étaient vos influences? Alors, est-ce que vous aviez des influences au niveau justement de l'écriture? Est-ce que vous aviez aussi justement des influences, parce que ça, je savais pas, des influences au niveau de dessinateurs ou des grandes œuvres de comics que vous aimiez?
What sort of influence did you have, only from the writing world or also for the comic world?
Mostly the writing world. I discovered, oddly enough, the books I started buying based on the illustrator who was painting the covers, and that was an artist named Frank Frazetta. Mm-hmm. And at the time, Ace Books was re-releasing all of the Edgar Rice Burroughs books, which had all Frazetta covers, and then Lancer was releasing the Conan books with Frazetta covers. Mm-hmm.
Alors, mes influences sont surtout issues de la littérature, même si les premiers livres que j'ai commencé à acheter, mes choix étaient dictés par les illustrations de couverture, et notamment ceux de la série Conan, dont les illustrations attiraient Steven particulièrement.
Frank Frazetta et les illustrations de Burroughs, des romans de Burroughs.
D'accord.
Yeah, so it was almost incidental that there were words in these books because I was buying them just for the covers.
Les mots m'importaient peu finalement, c'était surtout les illustrations qui m'intéressaient.
And so eventually I started reading some of them, and then that's what got me caught up in the whole idea of telling stories. But I never thought I would be a writer. I worked as an archaeologist and I thought that was going to be my career.
Mm-hmm. Donc j'ai quand même fini par lire ces livres, au-delà des illustrations. Et puis, petit à petit, je me suis fait prendre par ces histoires très, très riches. Et même si au départ, vu ma formation d'archéologue, je n'avais pas réellement prévu de faire une carrière en tant qu'écrivain.
And I was in university taking anthropology and in the city of Winnipeg. And I was having, I saw that there was a short story contest being run by an organization in the city. And so I just thought for fun, I would write a short story. And consistent with most of my career, I came in second.
Tout a commencé à Winnipeg, où j'étais étudiant à l'université au Canada. Et la ville a organisé un concours de nouvelles, d'écriture de nouvelles. Donc je me suis inscrit pour comme ça, un petit peu pour pas très sérieusement. Et puis, c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Eh bien, je suis arrivé deuxième.
And ironically, I'm the only person, the only award I've ever actually won in first place was in the UK. And it was first novel award for a novel called This River Awakens, which I wrote as Steve London. And the very next year, Gardens of the Moon came out, which I published as Steven Erickson, and I won it again. So I had to turn it down because you can't win the first novel award once or twice.
Mm. et de manière assez amusante, le seul prix littéraire que j'ai reçu, c'est celui du premier roman, pour un roman que j'ai publié l'année d'avant la parution du Jardin de la Lune, des Jardins de la Lune, qui s'appelle le premier...
Je ne sais pas.
What was the name of the first novel? The
one? This River Awakens.
This River Awakens, cette rivière s'éveille, la rivière s'éveille. Et l'année d'après, j'ai gagné à nouveau.
Et il était, alors il était
mais,
sous,
voilà, sous un pseudonyme. Le premier roman avait été publié
the
sous un pseudonyme.
Was on your real name.
Mm-hmm.
Voilà. Le premier, c'était
sous votre nom. Non, que,
Steven Erickson, c'est un pseudonyme.
Rune. Yeah, Steve London.
Steve London. Et le deuxième, paru sous son pseudonyme de Steven Erickson, a également reçu un prix qu'il a dû refuser, puisqu'on ne peut pas recevoir deux fois le prix du premier roman, bien sûr, dans sa carrière d'écrivain.
J'ai envie qu'on parle un peu brièvement. Vous êtes anthropologue et archéologue. Ça m'intéresse parce que je trouve que ça a pas mal de rapports avec votre écriture. Vous travaillez sur quoi quand vous étiez archéologue?
I'm very interested in the fact. Oh, sorry.
No, that's fine.
Oh, yeah, of course, yes. Yeah. I'm very interested in the fact that you're an anthropologist and an archaeologist, and I wonder whether the fields you were specialized in influenced your writing.
To some extent, the archaeology work I did was mostly in North America. Excuse me. And one of the characteristics of North America, unlike Europe, is that if you scrape away the first top 6 inches of soil, you've left all human history behind.
Ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé en Amérique du Nord en tant qu'archéologue, et que c'est très différent de l'Europe dans ce sens que en Amérique, lorsqu'on creuse un petit peu les six premières couches,
the first six layers, the first 6 inches,
the first 6 inches, oui.
Yes.
Lorsqu'on enlève une vingtaine de centimètres, eh bien voilà, il n'y a plus de traces de civilisation en Amérique du Nord, contrairement à ce que les fouilles révèlent en Europe.
That's a bit of an exaggeration, but I think it demonstrates the difference between the old world and the new world. So it made me very aware of landscape, and a lot of my archaeology was going out and finding sites.
Donc c'est un peu une exagération, l'image de ces 20 centimètres de sol qui font la différence entre l'archéologie nord-américaine et européenne, mais c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience de la différence fondamentale entre le nouveau monde et l'ancien monde, et qui m'a rendu particulièrement sensible au paysage.
And one of the other characteristics that I often don't mention is when you're on a dig, usually in, at least back then in Canada, there would be probably between 5 and 6, maybe 7 excavators. And we would be camped in the wilderness for most of the summer.
Un aspect intéressant aussi dans ma formation d'écrivain, c'est qu'en tant qu'archéologue, lors des fouilles au Canada, je faisais partie d'une équipe de 6 ou 7 archéologues, 6 ou 7 spécialistes, et on passait donc beaucoup de temps ensemble dans un camp assez isolé en général, sur les sites des fouilles.
So we usually did 10 days on in the bush and 4 days back. But what 10 days can do to a group of people who have to live together without civilization, in tents, is it creates a kind of a family and a camaraderie that exists in the group, which I mined, if that's the word, which I exploited when I was creating the military squads in the Melazen books.
Et cette expérience de la vie en camp avec mes camarades archéologues, ces 10 jours qu'on passait en général dans des tentes, dans des conditions assez spartiates dans la campagne, eh bien, m'a vraiment inspiré pour dépeindre les scènes militaires, les scènes de groupes de soldats dans mes histoires.
So a lot of the humor that showed up basically was generated by my experiences working in archaeology projects. In North America and Central America.
Donc l'humour notamment qui parcourt mon œuvre dans ces scènes de garnison ou de groupes de soldats, eh bien, vient principalement de cette expérience dans la nature, dans ces camps d'archéologues auxquels j'ai pu participer en Amérique du Nord ou en Amérique centrale.
And it was only later, when the books were being published, that I started getting emails and letters from veterans in the military, especially U.S. Marines, who were convinced that I had served in the military somewhere, because They just saw that same style of humor and camaraderie that was existing within their squads was showing up on the book in the books. And that was the first time I came to understand that the archaeology digs and the military are not much different, with the exception of one of them gets shot at and the other one doesn't.
Et donc, j'ai commencé un peu plus tard à recevoir des emails, des témoignages de vétérans, des soldats, notamment des marines américains, qui me disaient qu'ils étaient persuadés que j'étais moi-même, que Stephen était lui-même un ancien soldat, un ancien marine, parce qu'il décrivait très bien ce type particulier d'humour, cette camaraderie qui est propre au groupe de militaires. Et je suis persuadé que l'archéologie et l'armée ont des points communs, notamment celui-ci, même si bien sûr les soldats, les archéologues ne se font pas tirer dessus en général.
Well, as an archaeologist, I have been shot at least once.
Mais j'ai été, cela dit, en tant qu'archéologue, on m'a tiré dessus au moins deux fois.
The story there.
Not much.
Alors justement, vous étiez en train de faire des fouilles, vous étiez en camp comme ça d'archéologie, lorsque vous avez rencontré votre compère avec qui vous avez créé l'univers de Malazan, qui s'appelle Ian Claremont Esselmont, mm-hmm. en 1982. Est-ce que vous pouvez nous raconter du coup, alors votre rencontre, j'imagine, voilà, classique, mais comment vous en êtes venu à créer cet univers, en fait, tous les deux?
Mm-hmm. You were, I think, digging on an archaeological dig mm-hmm. with when you met when you
met Ian,
became
yes.
friends with Ian
Cameron,
and
yeah.
So how did it happen? And
we were just on a dig in Northwest Ontario. I had just come back from a project in Central America in Belize. And Cam, I think, was a year behind me in his coursework. And we ended up on the same dig. And I knew nothing about role-playing games, but Cam had grown up playing them. And so through him, I discovered the wonders of role-playing. And then through me, he discovered that he wanted to be a writer as well. So he followed me to the University of Victoria to take up a degree in writing.
Mm-hmm. Donc alors, ils étaient tous les deux étudiants et son ami, donc Ian, hein, qui l'appelle Cam, hein, c'est son
Cam.
Nickname Cam, donc était dans le même camp d'archéologique et puis dans la région nord-ouest de l'Ontario au Canada. Son ami, donc, lui, était un joueur féru de jeux de rôle, hein, c'était un grand fan de role-playing games, et il a donc initié Stephen à sa passion, et à l'encontre, Stephen lui a ouvert les yeux sur les possibilités de l'écriture, et donc tous deux ont décidé de s'inscrire ensemble à l'université de Victoria, à l'ouest du Canada.
And we shared a flat for a number of years, and during those years, we gamed virtually every night, when we weren't writing short stories, and that gaming provided the groundwork, if you like, the history underlying the entire Malazan world.
Mm-hmm. Donc, une fois qu'ils étaient tous les deux étudiants donc à l'université de Victoria, ils étaient donc colocataires et tous les soirs ils jouaient pendant des heures à des jeux de rôle ou en alternant avec l'écriture de short stories, de nouvelles. Qui ont constitué en fait la base de ce qui deviendra bientôt le monde de Malazan.
So the Malazan universe was always a fusion between two imaginations.
Qui est donc ce monde de Malazan, qui est la fusion, en fait, le résultat de la fusion de ces deux imaginations, l'une issue du jeu, l'autre de la littérature.
J'imagine que, alors j'ai deux questions en une, j'imagine que quand vous avez travaillé comme ça à deux, maintenant, c'est indissociable de savoir qui a fait quoi. Ma deuxième question, c'est jusqu'à quel niveau de détail vous êtes allé quand vous jouiez. Est-ce que, avant de commencer à écrire, il restait encore des choses à définir, ou est-ce que tout était déjà défini?
So that triggers two questions. First, when you work so closely with a friend, it's hard to tell who does what or who did what. And second question is, because you come from that universe of the role-playing games, mm-hmm. to what level of detail did you go when you wrote? Were you as precise as you are?
We were, in the sense that both being anthropologists, we wanted to create a secondary world that actually made sense. It made sense in terms of its, not just its history, but its prehistory, its geology, its geography, and was therefore consistent as a world in which people could live. In terms of separating things out, eventually we decided on simply picking up separate pieces of history in the created world, and he would write novels based on those aspects of the stories he wanted to follow, and I would write novels based on mine.
Alors pour la question de qui a fait quoi dans ce duo qui émerge, eh bien ils se sont mis d'accord pour s'attaquer chacun à des pans de l'histoire différents. Chacun s'est réservé des morceaux d'histoire différents et a écrit chacun de son côté dans un second temps des romans dédiés à ces périodes. Quant à l'influence du jeu et des détails que le jeu implique, eh bien en tant que joueur et en tant que scientifique, en tant qu'anthropologue, ils ont tous les deux insisté sur la nécessité d'être le plus précis possible, d'entrer dans le niveau de détail le plus profond, afin que les univers créés soient le plus réalistes, les plus cohérents possibles, qu'ils puissent vraiment être des mondes dans lesquels les êtres vivants peuvent évoluer, se développer au point de vue géologique, géographique, historique, préhistorique, etc. Rien n'a été laissé au hasard.
Curiously, we started out as feature film scriptwriters, and we had written we'd written a number of scripts, a horror comedy, and we were told, this is in Canada, and you have to realize that the Canadian film industry is, it's unusual. It's unusual in that it rarely Quebec. So.
Un autre détail amusant, c'est qu'ils ont commencé leur carrière comme des écrivains de scénarios, en fait. Ils travaillaient pour le cinéma, notamment pour des comédies, des films d'horreur comiques, même si il faut souligner que ça, c'était dans le contexte canadien anglophone, qui a la réputation de ne pas produire un cinéma de très bonne qualité. Le cinéma de qualité, il est associé plutôt au Québec.
So the first script we wrote was a horror comedy, and we were told emphatically that you can't put horror together with comedy. And then the year later, Lost Boys came out.
Le premier script qu'on a soumis donc aux autorités pour le transformer en film, c'était un scénario de comédie d'horreur, et on nous a dit fermement que ces deux genres ne pouvaient pas se mêler. Et bien sûr, c'était l'année précédant la sortie du film Lost Boys.
And then we decided to do historical drama, and we were told emphatically that costume dramas will never be back on film, and then Merchant Ivory showed up.
Ensuite, on a essayé de soumettre un film d'époque historique en costume, et on nous a dit non, ça c'est pas un genre qui peut marcher. Et puis l'année d'après, le tandem Merchant Ivory et ces films historiques si célèbres sont apparus sur le marché.
And then we wrote two film scripts based on the Malazan world, including Gardens of the Moon, and we're told that fantasy will never make it on film or television.
Ensuite, on a soumis deux scénarios basés sur nos sagas du monde de l'univers Malazan, et on nous a dit, non, la fantasy, ça marchera jamais au cinéma.
So we gave up and wrote as novels instead.
Et donc, on a abandonné nos projets de cinéma et on s'est consacré au roman.
J'ai juste une précision à demander sur le côté jeu de rôle, parce que ça j'ai pas très bien, en recherchant, compris. Est-ce que vous jouiez déjà les personnages qui sont dans les romans, ou est-ce que vous jouiez d'autres personnages, est-ce qu'il y avait déjà les intrigues, en fait, quand vous jouiez, qui se retrouvent dans les romans?
Mm-hmm. About the influence of role-playing game. Mm-hmm. Were you, before writing the saga, were you playing characters that you later introduced into the books, or mm-hmm. or did you create new stories in the novels?
Both, yeah. There are many, many characters in these books that were gained by either myself, Cam, and later on a whole group of other people, four or five other people. The first character I ever created was Anamander Rake. And the first game I ran was with an NPC named Dancer, and Cam played the character of Kellenved, who became the Emperor.
Il y a les deux, en fait, dans les personnages de la saga. Il y a des personnages qui existaient déjà dans notre phase de jeu simple.
Et I can help you with the names if you want.
Yes, yeah. The only one I know is Anamander Rake, which is famous. Mais petit à petit, on est venu à insérer dans les histoires un très grand nombre de personnages qui
venaient du jeu ou pas, plus de 400, 500 personnages en tout. Hein. Et j'ai commencé, moi, par contre, à incarner le personnage de Rake, hein, mais également...
Dancer.
Le personnage du danseur.
As NPC, yeah. Non-player character.
Voilà, c'est un personnage qui ne joue pas, un NPC. Hein.
And Cam was at Kellenbed, also... Actually, his original name for the game was Dr. Wu.
Dr. Wu, but spelled...
W-U.
W-U,
straight from the
oui.
Steely Dan song.
Ah,
yes.
D'accord, d'accord. Dr. Wu, W-U. Et c'était le nom original du personnage incarné et joué par son compagnon, donc hein, son partenaire d'écriture, Cam.
And a lot of those adventures are being written out right now by Cam in his trilogy called Path to Ascendancy.
Et d'autres personnages issus des jeux sont en cours de développement dans une trilogie que Cam est en train d'écrire, hein, Ian Esselmont, qui s'appelle Le chemin vers Path to, sorry.
Ascendancy.
Le chemin vers l'ascendance. Le chemin de l'ascendance.
Oui, voilà, parce qu'il faut dire aussi que donc il y a deux auteurs pour le même univers qui comme l'a expliqué Steven, qui ne travaillent pas sur les mêmes périodes. Parfois ça se croise, mais voilà. Pour l'instant, en français, on n'a que les romans de Steven. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà lu le premier ou les deux premiers du cycle. Vous avez sans doute compris que c'est quelque chose de super touffu, de vraiment foisonnant. Enfin, quand il parlait de plusieurs centaines de personnages, c'est ça. Avec des intrigues complexes, Steven ne prend pas le lecteur par la main, il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de voilà, on entre dans le monde de plein pied sans être cajolé et on ne nous explique pas tout ce qui se passe, on est vraiment comme si on se retrouvait plongé dans ce monde-là.
C'est vraiment... I think I worked all that out, by the way.
Good,
okay.
But anyway, so I'll get confirmation.
No, it's just that your universe is very complex. The plots are very complex, and the reader is not really helped.
They're dropped right in.
At the deep end.
Donc c'est de la fantasy comme on en a. Enfin moi, comme j'en avais jamais lu. Est-ce qu'il y avait chez vous d'entrée une volonté de subvertir un peu les clichés?
So it's a very original and unique brand of fantasy in a way. Did you willingly decide to undermine and to debunk the codes, the clichés, the commonplaces of fantasy?
Me?
Yes.
No. Yeah, sure. Well, yes and no, because the structure of Gardens of the Moon is essentially lifted from Frank Herbert's Dune. And of course, in science fiction, it is very common to be dropped into the middle of a story. Mm-hmm. So I thought nothing of it by transferring that to fantasy.
J'ai pas vraiment révolutionné le genre dans la mesure où la structure des Jardins de la Lune est fortement inspirée de celle de Dune, de Frank Herbert. Et on peut noter d'ailleurs que dans la science-fiction, c'est pas si rare d'avoir un phénomène comparable, c'est-à-dire un lecteur qui se trouve... plongé d'emblée, sans explication, un peu perdu dans un univers complètement nouveau.
But in terms of story, even from our gaming, we began by undermining tropes throughout all the fantasy tropes we could come up with. We undermined them as best we could, deconstructed them. It might be a better word for it.
Mais dès le début, même lorsque nous jouions, en fait, avant d'écrire, on s'est toujours intéressé à cette espèce de déstructuration, de déconstruction des codes, des tropes, des clichés de l'univers du jeu et de la fantasy.
So in a way, Gardens of the Moon, the first book, is kind of a guidebook to how you can read the rest of the series.
Et on peut concevoir que les Jardins de la Lune, le premier volume, est une sorte de guide qui va guider donc le lecteur vers les volumes suivants, les neuf volumes qui suivent.
And so I took it as a personal challenge to make sure what I wrote, or rather, the reader could not predict where the story was going. And I wanted to make sure that it stayed that way.
Et l'une des choses à laquelle je me suis attaché, c'était vraiment d'écrire de manière à ne pas révéler, à empêcher le lecteur de deviner ce qui allait se produire dans les suites.
A lot of epic fantasy follows a very traditional structural style in terms of its narrative. Probably three acts, but four acts is quite common as well. So it is what Joseph Campbell then called the hero's journey.
En fait, dans la fantasy, dans l'épopée, dans la fantasy épique, on trouve très souvent la même structure traditionnelle, le même style, le même type de narratif, de narration, en trois actes, parfois en quatre actes, ce qu'on appelle le voyage, le parcours du héros.
And I wanted to make, I did not want, okay, there are characters within the series, the 10-book series, who travel, who do their own hero's journey, but there is no novel that is structurally based on the hero's journey.
Et aucun de mes livres n'est entièrement et exclusivement consacré à cette progression d'un héros, à ce voyage, à cette saga d'un héros. Il y a des personnages qu'on peut assimiler à des héros qui ont un parcours au cours des différents volumes, mais ce n'est pas c'était ma volonté de ne pas en faire l'objet seul d'un volume ou d'un autre.
My presumptuous desire was to make the reader undertake the hero's journey by reading all 10 books.
Et j'avais la présomption d'espérer que le lecteur lui-même construise ce parcours du héros à travers la lecture des 10 volumes.
Donc il n'y a pas vraiment de héros, ça on l'a compris. Il n'y a pas de personnage principal, ou alors il y en a plusieurs dizaines. On le voit dans les deux premiers, dès le début, on a l'impression qu'il va y avoir un héros, et puis non, c'est pas lui l'héros, il y a plusieurs autres personnages qui sont tout aussi importants. Est-ce qu'il y a quand même des personnages dont vous vous sentez plus proche, en fait? Vous avez joué à Normander Rake, est-ce que vous êtes plus proche de ce personnage? Est-ce qu'il y a des personnages auxquels vous êtes attaché ou qui étaient plus proches de votre point de vue?
So it seems that there are no real heroes, or not single.
Oh, there are many heroes.
Or many heroes, yeah. And in spite of this sort of the large number of characters, is there one to whom you feel closer, like Rake, for example?
No, not Rake at all. I would say two characters. One is Fiddler, which was a character I played in a lot of games.
Le personnage dont me sens proche, c'est pas Rake, hein, pas du tout. Mais par contre, ça peut être je pense à deux personnages. Le premier, c'est Fiddler, un personnage que je jouais en tant que.
And I don't know. I don't know what Fiddler's name is in the French version.
Fiddler. Je ne sais pas. Fiddler, ça veut dire celui qui joue du violon. Hein, ouais. Ça peut être celui qui magouille aussi un petit peu.
Hein. Anyone?
Fiddler.
Voilà une bonne question.
Okay.
Ah oui, comment vous l'écrivez, pardon? Procus.
C'est lui?
Procus?
Procus? Procus? No,
Procus?
Not Procus.
That's another one.
I'm going to find it.
C'est un autre personnage, alors.
Imperial.
Violoneux.
Corporal Calam. Sapir. So it would be
violin.
One of these.
Violin.
Yeah? Yeah. Violin. Yeah.
Okay. Bonne traduction.
Yeah.
Violin.
And the other one is a character you meet very briefly, but who will become much more important later, and that is the character of Perrin's sister, Tavor.
Tabor.
Tavor, with a
Tabor.
B. I don't know if she's mentioned here either.
Tabor.
Tavor.
Tavor with a V.
With
sorry.
A V.
With a V, yeah. Sorry, Tabor. L'autre personnage duquel je me sens assez proche, c'est Tabor, même nom, vous l'avez vu?
Tabor, same name apparently.
T-A-V-O-R-E?
T-A-V-O-R-E.
Yeah.
Yeah.
Okay.
Tavor.
Yeah, Tabor.
Tavor. Qui est she's a woman, right?
Yeah.
A lady.
Yeah. Yeah, she becomes pretty much the central driving force of the series.
Elle n'est pas très présente dans le premier volume, mais elle devient un personnage capital dans la série, au cours de la série.
Il faut expliquer donc qu'il y a en tout 10 volumes dans la première série, parce qu'après il y a d'autres séries. Vous avez écrit d'abord donc Les Jardins de la Lune. Et là, je crois que c'est votre éditeur qui vous a demandé de faire une suite. Et vous avez proposé 9 suites. Donc, vous avez rédigé, j'imagine, les synopsis des 9 livres d'un coup. Vous aviez déjà toute l'histoire déjà prête.
So it's a series. The first that series is made up of 10 volumes. Mm-hmm. So you submitted the first one first, and am I correct in saying that your publisher asked you for a sequel, and you came up with the nine following books?
No. We pitched it as a trilogy. And once the first book started doing very well, I phoned my editor and I said, actually, it's not a trilogy, there are nine more books.
Donc le projet initial, c'était une trilogie. Et puis, le succès étant au rendez-vous, Stephen a eu l'idée de le transformer en une série de neuf livres à la suite du premier volume.
And I think if we had pitched it as 10 books, we never would have found a publisher.
Si on avait présenté d'emblée le projet comme un ensemble de 10 livres, on aurait sans doute pas trouvé d'éditeur.
Vous avez écrit ou dit, je l'ai lu sur le web, que vous étiez surpris que la série soit devenue aussi populaire. Pourquoi ? Vous ne pensiez pas qu'elle allait devenir mainstream ?
You were surprised, apparently. We found a quote on the net that the success and the fact that the series became so mainstream. And, mm-hmm. Is that right?
I was, mm-hmm. Yeah, very surprised. Mm-hmm. Generally, one writes to entertain oneself, and I didn't know, or my audience was actually Cam, and Cam's audience was me, and so we were writing to entertain each other. And we didn't know if there was an audience out there that would be entertained in the same fashion we were. We had a hint, but we couldn't tell because we were both inspired by Glenn Cook's Black Company and his Dread Empire, which preceded Black Company. But neither one at the time was very successful. So Glenn was actually struggling he wanted to keep writing the Black Company, but his publisher was pushing him towards his fantasy detective, Garrett. Mm-hmm.
En fait, au début, on écrivait à deux, donc l'un pour l'autre. On n'avait aucune idée de ce que pouvait être notre lectorat en dehors de nous deux. Donc, on a été très surpris de voir que des gens étaient aussi, tombés sous le charme de nos histoires aussi fort que nous. D'autant plus que nous étions tous deux, à l'époque, intéressés, focalisés sur des œuvres comme celle de Glenn Cook, la Black Company, qui était menacée par l'éditeur, hein, qui guidait l'auteur plutôt vers une autre série qu'il écrivait sur un détective, des histoires plutôt de fantasy policière, détective, plutôt que cette série de Black Company qui nous plaisait beaucoup.
Believe it or not, I mean, I've seen a lot of editions of the Black Company here in France and all the bookstores. But it was, there was a period when it was almost unavailable, even in North America. And it's amazing to see that it has survived and it has continued and is now, not only is it a kind of finally being discovered as a very adult, groundbreaking fantasy series, but I think it's now coming to television as well, which is very exciting. I hope they pull it off. I hope they don't mess it up. Let's put it that way.
Et à propos de Glenn Cook et de la Black Company, donc j'étais ravi
la
de
compagnie noire.
La compagnie noire, pardon. Mmh. La compagnie noire, désolé. J'étais ravi de voir qu'on l'a trouvé maintenant partout, notamment en France, en traduction. Et c'est merveilleux de constater qu'une série dont le succès n'était pas garanti au départ, eh bien, a finalement été reconnue comme quelque chose de capital, de fondamental dans le monde de la fantasy. Et qu'elle va même peut-être faire l'objet d'une adaptation télévisée qu'on souhaite de bonne qualité.
Je sais pas si ça a beaucoup de succès. En tout cas, c'est disponible depuis les années 90. La Compagnie Noire, c'est
un
classique. Un classique. Mm-hmm. Ouais.
It's become a classic.
Yeah. It has. Yeah.
Une autre chose qui est un peu déstabilisante aussi, si on plonge dans l'univers, c'est que entre les deux livres, les Portes de la Maison des Morts ne suit pas. C'est-à-dire que ça part sur une autre intrigue en fait que Les Jardins de la Lune. Je crois qu'il y a une histoire là derrière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer?
Another rather surprising and unsettling thing about the two books, the first two books, is that it's both a sequel and not a sequel. Mm-hmm. And Is there a story behind that? Or?
Yeah, there's a story behind that. when I finished Gardens of the Moon, I immediately started on what I thought was going to be the next book, which was Memories of Ice. And this is in a time when I think this is, there were probably very few computers. And I was using an electronic word processing system made by the Brother Typewriter Company. And it had, you could store on floppy disks, but it could only use one side of the floppy disk. And it could max out, I think, at 6.4K, something like that. And so you would have, you just start piling up the disks with a novel. And I promptly lost all of them. I had written about close to 300 pages of that novel, and I lost it all.
En fait, après avoir terminé les Jardins de la Lune, mon projet initial avait été immédiatement donc d'enchaîner sur un autre roman que j'avais appelé Memories of Ice, les souvenirs de glace. Et à l'époque, j'écrivais non pas sur un ordinateur, mais sur une sorte de machine à écrire électronique avec stockage par disquette et des disquettes qu'il fallait changer rapidement puisque elles avaient une contenance très limitée. Et j'ai perdu toutes ces disquettes, l'équivalent de 300 pages rédigées.
I still have some of those diskettes, and I wrote to the head company, Brother, asking whether we can get them transferred onto something more readable. And they wrote back saying even they can't read them.
J'ai pu conserver certaines de ces disquettes, et j'ai écrit à la marque, à la compagnie Brother, hein, qui commercialisait cet appareil, et eux-mêmes n'ont plus les moyens de transférer sur un support digital plus utilisable ces souvenirs d'un autre âge.
So I was kind of heartbroken, so I did not have the energy or the will to actually begin writing in that book all over again. So I switched settings, and I switched the setting to Seven Cities, which is where this one takes place, even though, and what I did was I made sure at least four characters transferred over, so we could carry those characters across into the new setting. So then I wrote that book, and knowing I was going to get back to Memories of Ice after I finished that one.
Donc, j'étais désespéré. Donc, après cet accident, hein, cette perte de mon projet de roman, et j'ai décidé de tourner la page, de changer d'univers, et j'ai conçu. Donc, je me suis mis à écrire dans un nouveau décor, un nouvel univers, celui des Seven Cities, des sept villes, et c'est devenu le deuxième volume dans lequel j'ai quand même conservé quatre personnages originaux, ce qui donne l'impression d'une suite d'une certaine façon également.
So, Dead House Gates and Memories of Ice, books 2 and 3, are almost running parallel in time. Not quite, but pretty close.
Et en écrivant le deuxième, donc, suite à cet incident, j'avais tout de même conservé le projet d'écrire Memories of Ice, le projet initial, hein, les souvenirs de glace. Enfin, je ne sais pas si le titre a... français est arrêté déjà,
il
est en cours. Ce qui est devenu effectivement le troisième volume, qui n'est pas encore disponible en français, et qui se trouve partager la même tranche chronologique ou temporelle que le deuxième.
Sorry. So the third book picks up where Gardens of the Moon left off, same setting, and mostly the same characters.
Donc le troisième livre débute là où s'arrête le premier, en fait, hein, puisqu'ils sont un petit peu parallèles, le deuxième et le troisième.
Il y a dans le cycle de Malazan des dieux. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a fait penser... Donc, les dieux manipulent les hommes, ça fait beaucoup penser à l'Iliade et l'Odyssée, à la mythologie grecque. Même si c'est évidemment plus compliqué que ça, il y a des questions d'ascendance. Enfin bon, bref. Est-ce qu'on pourrait dire, est-ce que c'est une comparaison qui vous paraît valide, que votre cycle, c'est un peu comme si Homère avait eu les moyens narratifs modernes pour écrire l'Iliade? Ça se rapprocherait plus de l'Iliade, moi, je trouve. En tout cas, les premiers volumes. Est-ce que la comparaison est valide ou est-ce que c'est une influence?
There are lots of gods, and you think inevitably of Greek mythology when you read your books, even though it's even more complex in your books than in Homer. And is it valid to say that your saga is a bit like the Iliad written by Homer, who would have a modern means of you know, narrative. Creating a narrative, yeah. And narrative techniques and.
I think so. I mean, the inspiration was the Iliad, and so yeah, I guess it's that kind of approach. I know I have to sort of think about this because the trilogy that follows this 10-book series, I went the other way. If this series sprawls, then the following series goes inward, mm-hmm. and I used Shakespeare as. The inspiration for that. So, yeah, the Iliad, I think, more so than the Odyssey, there was something about the Iliad that just sort of seemed like it had the right kind of tone and approach and relationship between mortals and the gods that was something we wanted to explore in the gaming to begin with and then in the novels.
Oui, c'est indéniable que l'Iliade est une de mes sources d'inspiration principales hein, pour la série de 10 volumes donc du monde de Malazan. Dans le ton, dans l'approche qu'Homère fait de ses personnages, dans la relation qui est dépeinte entre les dieux et les hommes, tout cela est très proche de l'Iliade, bien plus que de l'Odyssée même. Cela dit, c'est pas ma seule source d'inspiration, je pense à la trilogie qui suit dans la carrière de Stephen, la trilogie qui suit l'univers de Malazan et qui, elle, s'inspire plutôt, non pas de manière donc expansive, un petit peu comme l'Iliade, mais plutôt en se refermant sur elle-même avec comme source d'inspiration non plus Homer, mais Shakespeare.
Un autre point marquant, je trouve, des textes et du cycle en général, c'est le fait que le monde n'est pas figé. On n'est pas comme dans Le Seigneur des Anneaux, où au début, il y a un monde tout à fait clos, avec, où rien ne se passe, quoi. Le temps semble s'écouler paisiblement, alors que vous, il y a déjà des bouleversements partout. Ce qui me donne à penser que votre monde, en fait, vous le regardez plutôt comme un historien que comme un chroniqueur littéraire, quoi. Est-ce que ça aussi, ça a été naturel, parce que j'imagine que vous êtes archéologue, ou est-ce que c'était quelque chose de réfléchi, de se dire il faut contrevenir à ce cliché de la fantasy où le monde est figé, comme ça, avant l'aventure, quoi.
Good. The world of fantasy is usually frozen in time, mm-hmm. as in Lord of the Rings. Your mm-hmm. world is not that at all. It's full of movement, of upheavals. And it seems to us that your approach is more that of a historian mm-hmm. than a novelist. And was this a deliberate approach then to you?
Yeah, because we're anthropologists, excuse me, I'm still fighting a cold. As soon as I got to France, I caught a cold. Both as anthropologists, we're aware that a static culture is a dead culture. And so if you want to create a secondary world, you have to acknowledge that all civilizations and all cultures are in constant change through time.
En tant qu'anthropologue, nous étions depuis le départ très conscients du fait qu'une culture statique est une culture qui meurt, qui disparaît. Donc on s'est attaché à dépeindre, à créer un univers qui soit en mouvement constant.
One of the common clichés of epic fantasy is you have a civilization or a world that then is in peril, and then when the peril is removed, that civilization returns to where it began. And it's as if there has been no, there's no technological shift, there's no mindset shift, there's no evolution between the two. And so it's kind of a timeless world, which from our point of view kind of removes the jeopardy imposed by whoever the Dark Lord happens to be, because if you're simply returning back to the way it was before, all you're going to do is repeat forever.
En fait, l'un des clichés de la fantasy traditionnelle, c'est justement cette situation dans laquelle un monde se trouve en péril. Le péril donne lieu à un conflit, le conflit trouve une solution, et on revient
au stade initial en fait du monde, sans apparemment que ce soit produit une quelconque évolution, un changement de paradigme, etc. Un petit peu dans un monde sans temps, sans évolution dans le temps, ce qui d'une certaine façon fait disparaître la menace du méchant quel qu'il soit dans ces histoires.
And it makes sense if you think about it, because Tolkien's Lord of the Rings was the launch pad for many, many epic fantasy writers. But Tolkien, when you reach the end of that third book, you have a fairly strong sense that the old world has ended and a new world is beginning. But the readers who then grow up with this, they are, and then write Lord of the Rings style epic fantasies, what they're writing out of is a sense of nostalgia. So in a sense, they can't leave that particular world because that is their inspiration.
Et même si dans le Seigneur des Anneaux, à la fin du troisième volume, on a l'impression qu'un monde prend la place d'un autre, qu'un nouveau monde émerge, donc il y a une sorte d'évolution, il n'en reste pas moins que toute la veine de la fantaisie qui est l'héritière directe de Tolkien, eh bien, semble prisonnière d'une sorte de nostalgie, une sorte de cette dimension figée dont on parlait tout à l'heure.
So they end up trapped in that loop of constantly returning back to where the story begins.
Donc on est dans cette situation, on se trouve un petit peu prisonnier d'un cercle sans fin, sans évolution.
So one of the main elements in the first book, which kind of signposts the fact that we're not going in that direction, is the introduction of Marantha munitions. Marantha munitions. Alchemical munitions.
Alchemical. Oh, of course, yeah. Et donc, il y a certains éléments, dont l'introduction d'armes de nature alchimique, qui sont introduites dès les deux premiers romans pour justement se démarquer, pour que l'histoire puisse se démarquer de ce style inspiré du Seigneur des Anneaux que l'on trouve dans d'autres exemplaires de fantasy.
And those munitions were only available from a particular country that was allied with the Empire.
Des munitions alchimiques donc, qui sont à la disposition uniquement des alliés, d'une catégorie d'alliés de l'Empire.
And up until that point, before that, magic users in the military were the most feared, the most powerful, and most dangerous aspect of military engagements.
Avant l'introduction de cette nouveauté, d'une certaine façon, les soldats, dans les soldats des histoires, donc, qui utilisaient la magie, étaient la force la plus puissante de la saga.
And then, of course, somebody discovered that a grenade thrown at the foot of a wizard is very effective at wiping out that wizard.
Puis on a découvert des choses assez évidentes, comme par exemple le fait qu'une grenade jetée au pied d'un magicien était très redoutablement efficace.
Which then created an entire subset within the military of sappers and saboteurs.
Ce qui nous a permis de créer une nouvelle nouveauté, c'est-à-dire cet ensemble de ce sous-groupe de saboteurs, de sapeurs hein, qu'on utilise dans nos.
So there's a subtext underlying the Malazan Empire's expansion.
Il y a ainsi un sous-texte hein, qui se crée derrière la saga principale du monde de Malazan.
Because it's changing the game of warfare through a leveling effect.
Qui prend la forme d'une modification assez fondamentale des règles de la guerre.
So at its heart, the Malazan Empire's approach to the military is egalitarian.
Say that again, sorry.
The Malazan Empire's approach to the military
is egalitarian. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que l'approche qu'on trouve dans l'Empire Malazan de la guerre, eh bien, est fondamentalement égalitaire.
So the idea, even in epic fantasy, your classic epic fantasy trope of the Dark Lord having all the magic and then having the hordes being launched against the innocent people, can all now be subverted simply by some guy sneaking into the palace and blowing up that Dark Lord.
Et ainsi, avec cette nouvelle approche et plus égalitaire, ben on n'a plus cette situation où un seigneur tout-puissant, un seigneur du mal tout-puissant, pouvait lancer ses hordes de sbires vers les innocents, mais où tout peut être subverti par un personnage malin qui s'infiltre et qui peut faire dérailler la machine.
So you can look at that as the most concrete example of undermining fantasy tropes.
C'est à mon avis l'exemple plus concret de la façon dont nous réussissons à saper, justement, à déconstruire les codes traditionnels de la fantasy.
And that's why the entire series, I don't know if I should say this, is actually metafictional.
Ce qui implique que la série tout entière est en fait métafictionnelle.
Mm. So it's also it can be read as postmodern, it can be read as poststructural, if anybody knows narrative or narratology.
Pour employer des termes de narratologie, on peut la concevoir comme une série postmoderne ou poststructurale, pardon.
Because it's a fantasy novel series about fantasy series.
C'est-à-dire dans le sens où c'est une série de fantasy, mais qui prend au sérieux le fait qu'elle soit non sérieuse, qu'elle appartienne au monde de la fantasy.
And that's why the original response to Gardens of the Moon was people either loved it or they just hated it.
Et donc ça a focalisé les réactions, ça les a polarisées de manière très nette, avec une partie du public qui a adoré la série et l'autre qui ne l'a pas du tout appréciée.
C'est le Watchmen de la fantasy.
Yeah, maybe so, yes. Yes.
Au début, vous avez parlé des livres de Conan que vous lisiez jeune. Robert Howard, alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende, mais... il paraîtrait qu'il a raconté qu'il ne faisait que rédiger les aventures que Conan venait lui raconter. Est-ce que vous êtes hanté comme ça par vos personnages, par cet univers? J'imagine qu'à force de travailler dessus, vous avez passé des années à travailler dessus, est-ce que vous êtes complètement travaillé par l'univers et les personnages? Est-ce que vous le ressentez dans votre chair, quoi?
Robert Howard said, maybe it's not really true, but that Conan dictated him his adventures, that he heard Conan tell him about his adventures. Mm-hmm. Are you similarly haunted by your characters and your stories?
I allow enough room for the characters to take the story somewhere. But it's nice that you use Robert E. Howard, because there are two pathways to epic fantasy, and everyone thinks of the Tolkien pathway as the only one.
Mm-hmm.
But the other one is the sword and sorcery pathway. And I'm definitely, and so is Cam, we've come along the sword and sorcery path. We were not huge fans of Tolkien. in that sense of being dictated to, certainly the fifth book, Midnight Tides, wrote itself. It was the most effortless book to write I think I've ever experienced. Actually, until recently.
Pour reprendre cette comparaison avec Robert Howard et Conan qui lui aurait dicté les histoires. Le cinquième tome de la saga s'est écrit tout seul, d'une certaine façon. Il lui est venu sans effort. Donc, d'une certaine façon, oui, il a été sous l'influence de l'histoire et des personnages. Même si il tient à faire la distinction entre... par ailleurs, il tient donc à signaler sa parenté artistique avec Robert Howard, et se distinguer de Tolkien, qui dont l'approche de la fantasy est bien différente de la sienne.
Merci.